L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger.
Bonjour. On a vu l'époque bénie des rois carolingiens, aussi bien Pépin le Bref que Charlemagne que Louis Ier. Et la grande méfiance de l'Église à l'égard des Juifs à cette époque, méfiance d'autant plus grande que la concurrence existait entre les Juifs et les chrétiens, parce que les Juifs convertissaient des chrétiens. L'exemple le plus célèbre à l'époque, c'est celui de Bodon, qui était le confesseur de Louis Ier, le Pieux, l'empereur, qui s'est converti au judaïsme. Il a décidé de s'appeler Éléazar, il est parti en Espagne. Alors ça, ça n'a pas plu à l'Église, qui a continué à taper sur les Juifs, peuple déicide, peuple maudit, condamné à l'errance, religion dépassée et desséchée, ça a fini, malgré tout, par toucher le peuple, qui a commencé à se méfier des Juifs, alors que jusque-là, les relations entre le peuple chrétien et les Juifs étaient plutôt bonnes. Ils dînaient même ensemble, ils déjeunaient ensemble, ils se voyaient souvent. Et l'Église a voulu rompre ces relations. Les invasions normandes ont facilité un peu ce que souhaitait l'Église, c'est-à-dire qu'on a accusé les Juifs d'ouvrir les portes des grandes villes aux Vikings, à Nantes, à Bordeaux, mais ça n'a naturellement aucun sens. Mais ça a renforcé la méfiance des chrétiens à l'égard des Juifs. Les successeurs de l'empereur Louis Ier le Pieux, puisque à sa mort au traité de Verdun en 842, l'Empire a été séparé en trois branches, la branche germanique, la branche lorraine, lotharingienne comme on disait, et la Francie, qui deviendra la France, le roi Charles le Chauve, le fils de Louis, qui était donc le roi de la Francie, avait un médecin juif, Sédécias, et l'Église a tout fait pour qu'il se sépare de ce médecin. Cette époque, donc, est une des premières époques où on voit véritablement une séparation entre juifs et chrétiens, mais pas partout. Parce que la dynastie carolingienne s'éteint et en 987, c'est Hugues Capet qui devient le roi de France, mais ses vassaux, puisqu'on commence à entrer dans la féodalité, ses vassaux sont souvent plus puissants que lui. Et en Champagne, terre vassale, mais qui n'est pas dans le domaine de la couronne, le domaine de la couronne à l'époque, c'était globalement la région parisienne et encore, eh bien en Champagne, où il y a beaucoup de foires, notamment à Troyes, à Reims, le comte de Champagne favorise la présence des Juifs. Et là, on voit que la communauté juive de Troyes est riche, puissante, et il y a quelqu'un qui va émerger, c'est Rachi, bien connu, qui était à la fois vigneron et sans doute un des meilleurs, sinon le meilleur commentateur du Talmud. Rachi était l'élève d'un rabbin qui était né à Metz mais qui a vécu à Mayence, Gershon, élève indirect, et on connaît l'œuvre de Rachi, qui gagnait sa vie comme vigneron, certes, mais qui était le meilleur, sinon le plus grand commentateur du Talmud. Il a été tellement brillant, lui et ses élèves, qu'on appelait les Tosafistes, on leur a réservé une part essentielle dans les commentaires. Pour ceux qui savent comment se présente le Talmud, il y a la partie centrale avec le texte et il y a autour les commentaires des Tosafistes et de Rashi et plus loin tous les autres commentaires. C'est dire la place que le judaïsme a réservée à Rashi, qui est était le plus grand nom du judaïsme français sur le plan religieux avant l'époque moderne et qui a marqué l'ensemble du judaïsme. Et Rachi était vraiment un juif français puisqu'il employait beaucoup de termes français dans son hébreu au point que quand les textes arrivaient à l'étranger puisqu'il correspondait beaucoup avec les rabbins étrangers, ceux-ci étaient perplexes devant beaucoup de mots, certes écrits en caractère hébraïque, mais qui étaient en fait du très vieux français. Et on a établi au XIXe siècle la traduction exacte de ces termes qui ont permis d'ailleurs de mieux connaître le vieux français par beaucoup de côtés, notamment des termes techniques et notamment des termes de vigne. Et donc là, on a, malgré une époque qui s'assombrit, on a une éclaircie en Champagne avec Rachi qui a vécu de 1040 à 1105.
Et loin de nos 20 ans, des coups de poing, des coups de sang, mais qu'à cela ne tienne, c'est pas fini. On peut chanter quand le verre est bien rempli. Tu vends encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles, ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Et souviens-toi de cet été, la première fois qu'on s'est saoulé, tu m'as ramené à la maison. En chantant, on marchait à reculons. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je suis parti changer d'étoile sur un navire. J'ai mis la voile pour n'être plus qu'un étranger, ne sachant plus très bien où il allait. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Je m'ennuie pas, mais il faut que je m'en aille. J'ai raconté mon mariage à la mairie d'un petit village. Je rigolais dans mon plastron quand le maire essayait de prononcer mon nom. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles, ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je n'ai pas écrit toutes ces années, et toi aussi, t'es marié, t'as 3 enfants à faire manger, mais j'en ai 5 si ça peut te consoler. Tu vends encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille.
Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France raconté par Gérard Ringer la semaine prochaine.
Yeah.